Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Panama Papers, Uber Files, peut-être que cela vous dit quelque chose. Cela vous évoque peut-être l'évasion fiscale, la corruption, le travail d'investigation fait par des journalistes. Un travail d'enquête qui peut nécessiter l'usage de logiciels. Et justement, aujourd'hui, notre sujet principal portera sur les logiciels libres pour les journalistes d'investigation. Avec également au début d'émission la chronique de G sur Canonical à 20 ans. Et en fin d'émission, la chronique de Vincent Calame sur un journalisme héroïque. Soyez bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission, c'est libreavoue.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours, nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 19 mars 2024, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission du jour, Élise. Bonjour Élise.
Bonjour à tous.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
G, auteur du blog BD Grisbouille, nous expose son humeur du jour. Des frasques des GAFAM au mode numérique, en passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique. Et d'ailleurs, je crois que Najat Vallaud-Belkacem a fait une sortie récente à ce sujet. G partage ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend ou l'enthousiasme, toujours avec humour. L'occasion peut-être derrière les boutades de faire un peu d'éducation populaire au numérique. Le thème du jour, Canonical à 20 ans. Bonjour G.
Bonjour et salut à toi, public de Libre à vous. Pour commencer cette chronique, je te propose une petite devinette. Attention, top, je suis un milliardaire sud-africain âgé d'une cinquantaine d'années. Au début des années 2000, je deviens le deuxième touriste de l'espace et je fonde dans la foulée une entreprise dans le milieu de la tech. Je suis... Et non, je ne suis pas Elon Musk, fondateur de SpaceX, et grand zinzin de l'espace ayant méthodiquement flingué Twitter, mais bien Mark Shuttleworth, le fondateur de Canonical, l'entreprise développant la distribution GNU Linux Ubuntu. Alors, j'ai un peu triché car Shuttleworth n'est plus milliardaire aujourd'hui, sa fortune étant plus que d'un demi-milliard, le nullos. Bon, et puis j'avais aussi oublié cette histoire de tourisme spatial. Ah ouais, à l'époque où j'avais découvert Ubuntu, ça m'avait fait marrer que le fondateur ait fait joujou dans une navette spatiale. Bon, depuis j'ai lu Pablo Servigne, ça me fait beaucoup moins marrer maintenant. Bon allez, je vais quand même pas cracher sur Shuttleworth pendant toute la chronique. Vous n'allez pas tomber de votre chaise si je vous apprends que je ne porte pas spécialement les milliardaires ou demi-milliardaires dans mon cœur, mais si je devais en sauver un, ce serait sans doute Mark Shuttleworth. Car on lui doit donc, comme je le disais, Ubuntu via Canonical, sa société fondée il y a tout juste 20 ans, le 5 mars 2004. Oui, je vous assure, 2004, c'était il y a 20 ans. Oui, face à la mère de Calogero et Passy, c'était il y a 20 ans, oui, Calopassy de 004 actions, c'est littéralement dans les paroles. Bon, et moi, autant en 2004, j'étais encore au lycée à pirater des licences de Guitar Pro sur Windows XP pour lire les tablatures du dernier Linkin Park, autant en 2007, j'étais en classe prépa et je découvrais Ubuntu. Il faut dire qu'à l'époque, Windows Vista arrivait et vu les retours que les gens en faisaient, j'avais à peu près autant envie de le choper que de choper des chlamydia. C'est donc mon ami Nicolas, que je salue au passage, qui m'a fait boire ma première gorgée de potion magique en me filant un CD de FacetiPhone, la version d'Ubuntu de l'époque. Je me souviens encore de cette sensation de découvrir un autre monde en lançant ce système GNU Linux sur mon premier PC portable que j'avais eu pour Noël. Alors j'arrivais de Windows XP, hein, avec ses couleurs froides, bleues, vertes, moches, cet aspect aseptisé avec ses polices même pas lissées d'ailleurs, et là je lance Ubuntu, et soudain... Ce bruit, c'est ma petite Madeleine de Proust de libriste. Je le vois encore, ce thème aux couleurs chaudes, avec ses reflets bruns et orangés, ses polices lissées, ses effets de bureau incroyables, et parfois un peu exagérés, oui. Oui, j'ai eu mon bureau en cube, en 3D, avec Beryl et Compiz, comme à peu près tout le monde à ce moment-là. Les fenêtres qui se déforment comme des feuilles de papier quand on les bouge, et qui s'enflamment quand on les ferme. Ah, c'était le bon temps. Alors oui, Ubuntu a changé par la suite, a adopté des couleurs plus froides, des teintes violacées, et un ton plus sobre, parce qu'il fallait faire pro, sérieux, évidemment. Puis moi aussi, hein, j'ai changé d'ailleurs en essayant plein d'autres distributions. La fameuse Debian sur laquelle est basé Ubuntu pendant un temps, Fedora pendant mes années de doctorat, et puis Linux Mint depuis pas mal d'années, une version dérivée d'Ubuntu que je trouve mieux foutue et plus agréable à utiliser. Mais n'empêche, on a beaucoup ironisé sur Ubuntu en disant que c'était un mot africain qui signifiait « je n'arrive pas à installer Debian ». Alors qu'en vrai, Ubuntu est bien un mot africain, plus précisément issu des langues bantoues d'Afrique centrale, orientale et australe, merci Wikipédia, mais qui désigne la notion suivante « je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes toutes et tous ». Et quand même, ça, je trouve que ça claque. À l'époque où je m'y suis mis, Ubuntu se targuait d'être un Linux for human beings, donc un Linux pour les êtres humains, ouais, carrément. Alors, non pas que les geeks qui avaient réussi à installer Debian et compagnie n'étaient pas des êtres humains, mais approcher d'une interface en ligne de commande sans trembler des genoux, c'est pas forcément donné à tout le monde. Et Ubuntu, ça reste LA distribution qui a rendu accessible GNU Linux, et par extension tout un pan du logiciel libre, à plein de personnes, moi compris. Si aujourd'hui on a des GNU Linux aussi conviviaux, faciles d'installation et d'utilisation, c'est sans doute en partie grâce à Ubuntu. Si de nombreux logiciels grand public, même propriétaires, proposent aujourd'hui des versions GNU Linux, Spotify, Discord, Zoom, tout un tas de jeux vidéo, c'est sans doute en partie grâce à Ubuntu. Alors, il y a des gens qui sont pas contents qu'on ait du propriétaire sur GNU Linux, mais force est de constater que ça aide à la transition. Et enfin, si le logiciel libre arrive parfois à se faire une place dans les services publics français malgré le lobbying de Microsoft, c'est aussi en partie grâce à Ubuntu. Et oui, la gendarmerie nationale en France utilise Ubuntu depuis 2008, enfin Gendbuntu, une version dérivée et adaptée aux besoins de la gendarmerie. Bon, en gros, ils ont mis un thème bleu gendarme. Hein. On connaît un paquet d'autres institutions en France qui feraient bien d'en prendre de la graine, mais on n'est pas là pour parler du ministère de l'Éducation nationale, ou du ministère de la Santé, ou du ministère des Armées, enfin bref. Bon, on peut reprocher tout un tas de trucs à Ubuntu. Sa promotion du système Snap centralisé qui fragmente le système et casse la philosophie de sobriété de GNU Linux, le fait que Canonical bosse un peu tête baissée sans trop collaborer avec les autres organisations, et puis évidemment, ces errements, comme l'introduction en 2012 de liens publicitaires vers Amazon. Mais quelle horreur, sérieux. Enfin bon, Canonical et Ubuntu restent malgré tout des acteurs majeurs de l'écosystème GNU Linux, et ce n'est pas un hasard si un gros paquet de distributions en sont aujourd'hui dérivés. Difficile d'imaginer ce que serait cet écosystème si Mark Shuttleworth n'avait pas décidé de claquer ses millions dans le développement d'Ubuntu, et non dans un énième yacht comme pas mal de ses camarades de classe sociale. Lors de ma dernière chronique, Libre à vous fêtait sa 200e émission et je lui souhaitais une longue vie. Alors évidemment, je vais souhaiter longue vie à Ubuntu aussi. 20 ans, et on l'espère beaucoup d'autres. Parce que moi, si je devais résumer ma vie avec vous aujourd'hui, je dirais pas que c'est avant tout des rencontres. Non, je pense que je vous dirais tout simplement, Ubuntu, je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes toutes et tous. Allez, salut.
Bah écoute, merci G pour cette belle chronique. Alors je crois que la gendarmerie a fait un peu plus que simplement mettre du bleu. Alors pour en être sûr, j'invite les auditeurs et auditrices à écouter l'émission qu'on avait consacrée à la gendarmerie nationale avec Stéphane Dumont, hein, qui était une personne en charge de la migration. Et c'est l'émission 34, donc sur libreavoue.org/34, parce que je vous rappelle qu'il suffit avec le numéro de l'émission retrouver facilement le podcast. C'est la 200e, donc c'est /200. Et dans la 200e, il y avait une superbe chronique de G que je vous invite à écouter, mais alors au calme, parce que c'était assez compliqué à suivre. Voilà. Et je vous rappelle que le site de G, si vous voulez l'aider à devenir milliardaire, ou à tout de moins millionnaire, ou au moins avoir parce un peu...
Milliardaire, je vais me détester.
Voilà, exactement. Mais en tout cas, vous pouvez l'aider, parce que G est auteur à temps complet. Donc son site, c'est grisebouille.net. Il y a un petit bouton de soutien. Donc je vous encourage évidemment à y aller pour soutenir le travail de G. Merci G. C'est pas la semaine prochaine, toi, non?
Non, je fais pas le café libre ce mois-ci.
D'accord, eh ben, ça sera au mois prochain, c'est alors. Ça, oui. Alors, nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de logiciels libres pour les journalistes d'investigation. En attendant, nous allons écouter K4Cool par Kuromaru. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1. We'll be right back.
écouter K4Cool par Kuromaru, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, donc c'est bail. Et cette musique était un choix de Marine Gandhi, l'une des personnes qui a participé fin 2023 à la campagne de financement participatif de la radio Cause Commune, donc un grand merci à elle. Et Marine avait été notre invitée en février 2023 pour parler du système de gestion de contenu libre Drupal. Et vous pouvez réécouter cette émission sur libreavoue.org/167.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter aujourd'hui sur les logiciels libres pour les journalistes d'investigation avec nos deux invités Caroline Desprat et Maxime Vanza Lutonda qui font partie du consortium international des journalistes d'investigation ICIJ en anglais, avec mon anglais à moi. N'hésitez pas à participer à notre conversation. Pour cela, vous pouvez aller sur le salon web dédié à l'émission, donc sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous, ou sur le site libreavoue.org. Et vous pouvez également appeler au numéro de téléphone suivant 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Alors, on va commencer déjà. Bonjour Caroline, bonjour Maxime.
Bonjour Frédéric.
Alors, on va parler de logiciels libres, je l'ai dit, pour les journalistes d'investigation. Alors, peut-être que les mots-clés que j'ai employés tout à l'heure, Panama Papers, Pandora Papers, Uber Files, plus récemment, diront quelque chose aux personnes. On en parlera tout à l'heure un petit peu en détail. On va commencer d'abord par une petite présentation personnelle rapide pour savoir qui vous êtes. On va commencer par Caroline Desprat.
Merci. Je suis Caroline Desprat, je suis docteur en informatique. J'ai rejoint le consortium il y a en 2021 en tant que développeuse et depuis quelques mois je suis adjointe CTO.
Alors CTO, directrice technique adjointe quoi.
Exactement. Ouais. Et après un petit stage aux Inrock et un court passage chez OVNI, j'ai découvert le data journalisme et j'ai eu l'opportunité de rejoindre le consortium en 2021 et c'était une sorte d'évidence de pouvoir participer à ce travail entre les journalistes et la tech.
Alors avant de passer la parole à Maxime, les gens qui nous écoutent connaissent sans doute les Inrock. Mais alors par contre, OVNI, les gens ne connaissent pas. Donc c'est dans les années 2010, c'était un site d'information français spécialisé dans la culture numérique et qui avait aussi participé à quelques révélations à l'époque, donc aux environs des années 2010. Et OVNI, c'est avec un W, c'est objet web non identifié, c'est bien ça?
Tout à fait, oui. C'était un des pure player pionnier dans le data journalisme qui a aidé à révéler les Wikileaks etc. avec un travail avec Julien Assange.
Voilà. Maxime Vanza Lutonda.
Oui. Alors pour ma part, je suis diplômé de l'ENS2IE. C'est une école d'ingénieurs en informatique et au cours de mon cursus, je me suis concentré sur le traitement automatique des langues. Et comme j'ai toujours eu un intérêt pour les questions politiques et sociales à travers le journalisme d'investigation, j'ai rejoint l'ICIJ en 2020.
D'accord. Alors pour les personnes qui écoutent l'émission Libre à vous depuis quelques années, c'est pas la première fois qu'on a des personnes du consortium. En 2019 ou 2020, vous voyez, j'ai bien révisé. Hein. Nous avions reçu, j'avais eu l'occasion d'interviewer rapidement Bruno Thomas et Anne Lhôte, parce qu'à l'époque, l'un des logiciels dont on va parler avait reçu un prix du développement logiciel Open Source Experience. Donc j'avais une petite interview de 15 minutes. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le détail. Mais d'abord, on va commencer par un petit peu expliquer ce qu'est ce consortium international de journalistes d'investigation, dont les gens n'ont sans doute pas du tout entendu parler. Mais peut-être que vous avez, si nous écoutez, entendu parler de certaines des révélations plus ou moins récentes, hein, parce que le consortium existe depuis quelques années. Donc on va commencer peut-être par un rappel de c'est quel consortium, sa mission, puis après son fonctionnement, son impact. Qui veut commencer là-dessus? Maxime ou...
Oui, je veux bien.
Alors Maxime. Okay.
Donc le consortium international des journalistes d'investigation, l'ICIJ, ou l'ICIJ, c'est un réseau indépendant de journalistes qui enquêtent sur des affaires internationales. Et son objectif, c'est de creuser les problématiques qui ne s'arrêtent pas qu'aux frontières. Les sujets sont autour de la criminalité, la corruption systémique et la transparence des pouvoirs, que ce soit dans les institutions publiques et privées. Alors l'ICIJ s'associe également ensuite à des rédactions du monde entier pour révéler et diffuser les affaires. tu veux ajouter quelque chose sur l'organisation?
Oui, pour compléter, l'ICIJ a commencé en 2013 avec les Offshore Leaks. Ça a été une des premières fois où il y a eu une coordination internationale de cette envergure. L'ICIJ, c'est aussi une newsroom en ligne parce que du coup
c'est quoi une newsroom,
une rédaction en ligne afin de justement coordonner tous ces journalistes qui participent aux enquêtes. C'est aussi un endroit où on met en place des outils pour collaborer autour des fuites de données, des documents. On fournit aussi de la formation et évidemment une partie essentielle, c'est le fact-checking, donc la vérification des faits qui sont dans les données qu'on récupère.
D'accord. Alors pour bien comprendre, donc, c'est un consortium de journalistes, donc de journalistes dans le monde entier. Est-ce que vous savez à peu près combien de journalistes sont?
Environ 290 actuellement.
D'accord, c'est assez précis. Aussi. Est-ce qu'il y a des noms de journalistes français ou connus potentiellement?
En fait, c'est les 280 journalistes, c'est des membres qui ont été recrutés par l'ICIJ sur candidature. Donc, il y a par exemple Édouard Perrin, Fabrice Arfi, Aurore Gurius et aussi Maria Ressa qui a partagé le prix Nobel de la paix en 2021. L'ICIJ, c'est aussi des partenaires. Donc, pour chaque enquête, on va, en fonction de là où se situent les histoires, on va faire appel
du pays, c'est ça.
En fonction du pays, on va faire appel aux partenaires. Par exemple, en France, ça va être une rédaction papier comme Le Monde, Radio France et Première Ligne qui fait l'émission Cache Investigation, par exemple. Et donc, après, le corps vraiment de l'ICIJ, on est 40 en staff. On a quasiment la moitié, c'est l'équipe tech et data. Une partie éditoriale et une partie fundraising parce que c'est une organisation...
Levée de fonds, pardon.
c'est une organisation à but non lucratif qui est basée sur des dons et sur les réponses d'appels à projets. Voilà.
D'accord. Donc, c'est des journalistes dans le monde entier qui travaillent dans l'investigation et à chaque fois dans les pays, vous menez des partenariats avec un certain nombre de journaux pour leur communiquer en avant-première le résultat des enquêtes que ces journaux, donc typiquement par exemple en France, Le Monde, France Inter et puis Première Ligne, Radio France, Première Ligne, pour rendre visibles ces révélations qui tournent principalement beaucoup autour de la corruption, de l'évasion fiscale notamment. C'est ce qui vous a rendu entre guillemets célèbre, si je veux.
Oui.
Enfin, en tout cas, c'est ma vision. Peut-être qu'elle est fausse, mais.
Notamment. Ça a gagné une notoriété grâce au Panama Papers surtout.
D'accord. Alors justement, avant de préparer l'émission, j'ai demandé autour de moi, j'ai cité quelques noms de vos dossiers plus ou moins connus en tout cas, Panama Papers, Pandora Papers, alors Offshore Leaks, Uber Files, et globalement ça disait quelque chose aux gens, mais vaguement, sans forcément pouvoir accrocher précisément. Donc peut-être qu'on pourrait juste, sans rentrer forcément dans le détail de chaque, peut-être en prendre au moins deux qui ont un petit peu marqué les esprits. Alors peut-être que celle qui a le plus marqué les esprits, c'est, même si c'est pas la plus ancienne, c'est peut-être les Panama Papers, justement. Alors c'était quoi les Panama Papers? C'est quoi ce scandale? Enfin, ces révélations?
Alors,
Maxime.
Oui. Alors les Panama Papers, c'est un scandale qui a eu lieu en 2016. En fait, il y a eu une fuite de documents d'un cabinet d'avocats panaméen. Il y a eu 11 millions de documents qui ont fuité et qui détaillaient en fait sur plus de 200 000 sociétés offshore ainsi que leur nom d'actionnaire, et ça impliquait des hommes politiques, des milliardaires, des célébrités et des entreprises.
Alors dans le monde entier.
Dans le monde entier.
En fait aussi ce qu'il faut ajouter, c'est que le fait de faire des sociétés offshore, c'est pas interdit par la loi. C'est juste que
C'est ce qu'on en fait qui
peut
être...
C'est ce qu'on en fait, et c'est surtout que souvent, le bénéficiaire ultime est caché derrière pour justement faire, pour le coup, de l'évasion fiscale. Mais le fait de faire des sociétés offshore, si tout est bien déclaré, on a le droit d'avoir un compte en Suisse.
Moi, j'ai cru comprendre qu'on fait que des sociétés offshore justement pour que ce soit pour cacher des choses, mais bon.
Mais par exemple, dans l'exemple des Panama Papers, en octobre 2021, on avait fait un petit récapitulatif après pour voir un peu ce que ça avait rapporté aux institutions publiques en termes d'impôts, les gens qui étaient revenus suite aux révélations, et c'était environ 1,360 milliard de dollars qui avaient été
dans le monde entier.
Dans le monde entier.
Et en France, on a une idée ?
Il y a eu un article dans Le Monde récemment, c'était 460 millions d'euros depuis 2016 qui sont retournés dans les caisses de l'État grâce à ces révélations, ce qui correspond à peu près, je crois que dans l'article de tête, à au moins en équivalent 4 hôpitaux par exemple.
Alors, la plupart de cet argent qui est revenu dans la caisse, c'est des gens qui ont pris peur. C'est pas simplement les gens qui ont été trouvés, c'est d'autres qui ont dit, si ça se trouve, le prochain enquête de ce consortium, je vais tomber dans les filets, donc je régularise. Après, est-ce qu'on a une idée par rapport, je sais pas si vous avez une idée, mais est-ce qu'on a une idée du pourcentage que ça représente par rapport à l'évasion fiscale mondiale, globale? Est-ce que vous avez une idée? Peut-être pas, Non.
Non.
Ok, on demandera aux gens qui nous écoutent s'ils ont une idée, ou peut-être ici dans le studio, peut-être que... alors précision, donc sur le salon web d'ailleurs, donc l'ONUGM qui nous précise, donc près de 33% de la somme était en France en fait, effectivement. Et par rapport à ce que tu as dit, c'est en gros 33% en France.
Oui, parce que par exemple, il y a très peu d'évasion fiscale aux États-Unis vu que la fiscalité est très avantageuse.
Oui, elle est très différente.
Ils n'ont pas besoin de partir.
Voilà, tout à fait, ouais. Donc on voit quand même aussi au-delà de alors j'ai... Excusez-moi, j'ai un petit souci avec le salon web, je replace. Au-delà de révéler effectivement des pratiques effectivement totalement frauduleuses, on voit tout de suite quand même l'impact que ça a par rapport notamment aux finances publiques. On peut juste espérer que les gouvernements mènent une lutte beaucoup plus acharnée contre ces problèmes-là, plutôt que d'aller chercher des solutions ailleurs. Mais bon, donc ça c'est les Panama Papers, c'est un peu comme ce qui entre guillemets a fait le plus parler peut-être de ce consortium. Et plus récemment, il y a eu les Uber Files. Alors je ne sais pas si ça a le même succès en fait, parce que visiblement c'est moins connu, même si on en parlait très récemment et qu'en plus c'est au plus haut sommet de l'État français, on est concerné, directement concerné, avec le président Macron. Donc, qui veut rappeler ce que sont les Uber Files?
Je peux.
Caroline, comment vous voulez, ce que vous voulez, Maxime.
Alors, les Uber Files, c'est passé en 2022. Et en gros, il y a eu plus de 120 000 documents confidentiels qui révélaient comment Uber... qui révélaient comment Uber profitait de... influencer de nombreux pays pour faire changer les législations en leur faveur, notamment grâce à des hommes politiques, dont Emmanuel Macron, comme vous venez de le dire,
ministre de l'économie, voilà, c'est ça.
Et donc là, c'est un autre type de scandale parce que ça implique directement nos politiciens.
Tout à fait, oui. Caroline ?
C'est sur la base du coup d'une révélation d'un lanceur d'alerte qui était le lobbyiste Uber. D'Uber, voilà.
D'Uber. Uber, c'est l'entreprise que tout le monde connaît, voilà. C'est pas cousin Uber.
Non, bien sûr. et c'est une enquête qui a réuni quand même 180 journalistes et qui a eu quand même un impact important en France, justement, dû au fait que Macron était président.
Tout à fait. Et je crois que si je me souviens bien, alors on te demande de te rapprocher du micro pour, si je crois bien dans l'actualité, c'est toujours concerné, parce que je crois qu'il y a une commission d'enquête sur le sujet. Alors je pose la question en même temps à mon collègue qui est sur le salon, il suit plus ces dossiers que moi, il pourra me répondre. En tout cas, voilà, c'est, alors il y a d'autres, évidemment, il y a les Pandora Papers, Offshore Leaks, vous allez sur le site du consortium ou sur la page Wikipédia, il y a un petit résumé. Vous avez parlé du nombre de journalistes impliqués, justement, ça va nous permettre d'en parler tout à l'heure dans les outils, enfin même très rapidement dans les outils que vous utilisez. Il y a une question par rapport à la commission d'enquête. Donc effectivement, il y a une commission d'enquête sur le sujet, les Uber Files, et la question c'est quel regard portez-vous sur les travaux de la commission d'enquête ? Ou elle a remis son rapport en juillet 2023. Bon, est-ce que vous avez un avis sur...
Personnellement, non.
Je n'ai pas d'avis.
Ok, d'accord. Donc ma question, parce qu'en fait, en lisant ça, j'ai oublié ma question avant d'aborder la partie effectivement des outils. Alors, Est-ce que finalement, vous pensez qu'on peut y arriver, cette lutte contre la corruption systémique, l'évasion fiscale systémique ? C'est-à-dire que vous mettez en valeur des choses, enfin, vous révélez des choses qui sont monstrueuses en termes de niveau de corruption, et c'est très très bien. Est-ce que vous pensez qu'au fur et à mesure des années, avec ce travail-là et d'autres, on va réussir à mettre un terme, en tout cas un terme, à fortement limiter ces problèmes d'évasion fiscale, de corruption Caroline.
Je pense qu'on voit déjà les impacts sur les retombées économiques, sur certains aspects. Je sais aussi que des listes qui avaient été sorties d'enquêtes de l'ICIJ ont aidé à créer les listes de sanctions contre des oligarques russes lors de l'invasion en Ukraine. Donc c'est des petites choses qui arrivent quelques années plus tard, parfois. On sait aussi que, par exemple, les révélations sur les Uber files, ça donne lieu à des commissions d'enquête qui vont, même si on sait que le lobby est très important à Bruxelles, va peut-être aussi changer des choses à ce niveau-là. Et par exemple, ça peut encourager à créer plus de... ça va aussi fournir des bases de données pour après pouvoir construire par-dessus des nouvelles enquêtes et aussi on sait que des gens ont un peu plus peur ou en tout cas pensent aux conséquences quand, lorsqu'ils vont ouvrir des sociétés offshore, donc c'est quelque chose qui est quand même présent dans les esprits.
D'accord. Et d'ailleurs, alors je crois que c'est un extrait de la commission d'enquête, en tout cas c'est un extrait d'un article qui a été publié dans lequel je vais lire donc que les journalistes et lanceurs et lanceuses d'alerte ont un rôle important à jouer dans les enquêtes et la révélation des violations potentielles de la législation fiscale ainsi que de la corruption, du crime organisé et du blanchiment d'argent. Donc on salue effectivement le travail, enfin cette commission d'enquête salue le travail à la fois des journalistes et des lanceurs et des lanceuses d'alerte qui sont plus ou moins bien protégés. Alors, n'étant pas un spécialiste du sujet, il y a eu plusieurs lois qui sont passées, mais qui nécessitent encore plus de protection parce que ce sont des gens qui prennent des risques considérables et qui peuvent avoir sur leur vie privée des conséquences très très néfastes.
Tout à fait. Je sais qu'il y a la maison des lanceurs d'alerte en France et que globalement, il y a quand même une bonne protection en France des lanceurs d'alerte, mais financièrement, moralement, ça a l'air compliqué.
Ça a l'air très compliqué, oui. Tu voulais rajouter quelque chose ?
Oui, vas-y, moi, Maxime. Personnellement, je pense que le fait de mettre en lumière tous ces scandales aux yeux de la population, c'est ce qui importe le plus. Après, ensuite, les institutions feront ou ne feront peut-être pas le travail, mais tant que les gens sont éclairés sur ce genre de sujet, je pense que ça peut apporter que du positif.
Ben je suis bien, nous sommes d'accord, effectivement. Alors, vous avez tout à l'heure cité le nombre de journalistes qui pouvaient travailler sur ces enquêtes, plusieurs centaines, plus d'une centaine, sur des répartis sur la planète. Donc, effectivement, c'est un travail important. Et là, c'est là où, dans ce travail, l'équipe tech, donc l'équipe technique, les outils, peut-être des principes, vont rentrer en action. Et c'est là où on va parler un petit peu des outils que vous développez. Mais déjà, j'aimerais que vous nous expliquiez cette notion de radical sharing. Alors, que je traduis par partage radical. Je ne sais pas comment vous le traduisez en français. Donc, le radical sharing lors du travail collaboratif. Alors, qui peut m'expliquer cette philosophie?
Je peux expliquer.
Oui. Caroline.
En fait, c'est une philosophie qui est portée assez haute à l'ICIJ et qui est assez unique, en tout cas dans ce que j'ai pu croiser moi de ma vie professionnelle. Et l'idée, c'est même si on travaille dans le secret, par exemple sur Pandora Papers, c'est 600 journalistes qui travaillent pendant 2 ans sur une enquête. L'idée, c'est que plus on partage ce qu'on trouve, plus on aura des histoires intéressantes parce qu'on a 12 millions de documents. On ne peut pas tout parcourir à une personne, donc on va partager un maximum. Et cette philosophie, elle va s'insinuer dans plusieurs détails qu'on retrouve dans notre travail au quotidien. Par exemple, on a un système de chat et on va toujours préférer parler sur le chat à tout le monde plutôt que de passer en message privé. Donc ça, c'est juste un petit détail. Mais dans la conception aussi des logiciels, on va partir du principe qu'on va essayer de faire que chaque production d'utilisateuriste va être publique. Par exemple, j'ajoute un tag sur un document, c'est pas un tag pour moi, c'est un tag pour tout le monde. Et c'est ces petites choses-là qui vont faire qu'on va encourager la participation générale et collaborative aux logiciels, aux histoires, évidemment la partie open source est aussi un autre aspect de cette philosophie qui est de partager en source ouverte ce qu'on produit avec la communauté, sans l'aspect pour le coup secret, mais plus de partager ce qu'on produit et de bénéficier en retour aussi des contributions des autres.
D'accord. Alors j'ai une petite question, je n'avais pas prévu avant de parler de l'outil DataShare. Tu viens de parler de chat. Je me demande quel outil vous utilisez pour ce chat. Alors c'est de la messagerie instantanée, c'est des forums, c'est quoi ?
Rocket Chat.
Oh, bah écoutez, on utilise les mêmes outils. Le salon web de l'émission est aussi sur Rocket Chat. Donc d'accord, c'est Rocket Chat. Ok. Donc c'est vrai, cet outil que vous utilisez. C'est une version, c'est la version de base ou c'est une version que vous avez sur laquelle vous avez fait des modifs
C'est la version de base.
D'accord.
En fait, pour tout ce qui est données confidentielles, l'idée, c'est d'utiliser d'aller vers des outils open source. Mm-hmm. Peut-être que ça dérive un peu sur les questions suivantes.
Mais c'est pas grave. Ça fait l'enchaînement.
Mais dans l'idée, c'est que si on utilise des outils qui sont propriétaires sur des données sensibles ou confidentielles, on n'a pas la main sur ce qui peut se passer derrière. Donc pour nous, c'est très important, justement, sur tout ce qui est en interne, de pouvoir savoir comment c'est traité et s'il n'y a pas de fuite ou de regard.
C'est la possibilité que vous avez pour l'équipe technique de faire de l'audit, si vous avez envie de le faire, parce que c'est du logiciel libre, donc le code source est disponible, vous pouvez l'installer, vous maîtrisez, par rapport à un outil externe, privateur, sur lequel vous n'auriez pas ce contrôle.
Tout à fait.
Exactement.
D'accord. Alors, je disais tout à l'heure, en 2019 ou 2020, parce que je ne sais toujours pas en quelle année c'était, l'un de vos outils, un peu l'outil phare peut-être, en tout cas j'ai l'impression, qui s'appelle DataShare, dont on va expliquer, a reçu le prix du meilleur développement logiciel libre, donc à l'open source Experience. Alors, c'est un outil phare, c'est quoi DataShare ? Et à quoi il sert au niveau des journalistes et du consortium ?
Alors, DataShare, c'est un logiciel open source qui permet d'un utilisateur de faire des recherches sur ses propres documents, quel que soit le format. Ces documents, ça peut être des scans, des images, des fichiers Excel, des files de mail ou des boîtes mail entières. Et ce qui peut arriver, c'est que ces fichiers ne sont pas toujours facilement exploitables. Et ce que va faire DataShare, il va être possible d'indexer tous ces documents afin de pouvoir faire des recherches dans ces derniers. En gros, DataShare extrait le texte. Ces recherches peuvent se traduire...
C'est à la fois un logiciel, mais c'est aussi une plateforme. C'est-à-dire, si je comprends bien, c'est une plateforme. C'est une plateforme. Donc, en gros, un site web sur lequel les journalistes peuvent rajouter des documents. Il y a un système d'indexation qui ensuite va permettre de trier, de faire des recherches sur les documents. C'est
exactement
bien ça ?
C'est ça.
D'accord.
Les documents vont être indexés avec Elasticsearch, pour rentrer dans les détails.
Donc il y a un outil qui permet de faire des recherches très avancées. Voilà. Ouais. Un outil libre, je précise.
On peut faire des recherches avec utiliser de nombreux filtres, rechercher par terme avec une barre de recherche, filtrer les fichiers par type, par date de création, ou même la chose un peu innovante avec DataShare, c'est qu'on pourrait trier avec des entités nommées.
Alors c'est quoi ?
Les entités nommées, c'est le fait de dégager en fait des noms d'un texte, des noms des organisations, des lieux, etc. Et pour cela, on utilise CoreNLP et OpenNLP pour dégager toutes ces entités.
D'accord. Alors, si je comprends bien, c'est un outil que vous développez en interne, mais basé sur d'autres logiciels libres.
D'autres logiciels libres.
D'accord. Et le choix du logiciel libre de mettre DataShare en logiciel libre, c'était dès le départ du développement ou c'était après ?
Non, c'était dès le départ. Déjà, Caroline a lancé le sujet tout à l'heure sur le fait qu'on traite des données confidentielles. Donc, faut avoir une connaissance du code que l'on utilise. Et pour éviter tout risque de fuite.
Et est-ce que c'est aussi une façon d'être en cohérence avec vous chercher à favoriser la transparence sur les flux financiers et donc autant utiliser la transparence dans la partie logiciel. D'accord.
Niveau logiciel.
Ouais. D'accord. Et ça fait DataShare est développé depuis combien de temps à peu près ? Vous vous souvenez ?
Depuis 2018, il me semble.
D'accord.
2017, 2018.
Et au jour d'aujourd'hui, donc, il est utilisé uniquement au sein de l'ICIG ou d'autres structures l'utilisent ? Enfin, à votre connaissance, parce que ça se vous savez pas, mais...
Alors, on sait que d'autres utilisateurs, enfin, des utilisateurs externes, des universitaires utilisent, parce qu'ils nous contactent quand il y a des bugs ou des fonctionnalités implémentées, mais ouais.
D'accord. Le petit rire que vous avez entendu, c'est parce que pour communiquer avec la régie, je disais un petit panneau, c'est marqué pause musicale à venir. Donc vous le savez, il y aura une pause musicale à venir. On va la faire tout de suite avant de rentrer un peu plus dans le détail de DataShare, notamment aussi par rapport à l'appropriation par les journalistes, hein, parce que il y a des outils qui des fois sont développés par des geeks et sont pas forcément utilisables par d'autres personnes. Donc on va d'abord faire une pause musicale qui va être relativement courte. Je la cherche, elle est là. Alors c'est une pause musicale qui va être un peu particulière parce que c'est la première fois qu'on va diffuser quelque chose qui est dans le domaine public. Et j'expliquerai après. Nous allons écouter 5 Million par Louis Armstrong. On se retrouve dans 2 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Écouter 5 millions par Louis Armstrong et qui est dans le domaine public, en tout cas selon la Bibliothèque nationale de France et le site gallica.bnf.fr, là d'où provient l'enregistrement. Alors cette musique était un choix de Vincent, pas le Vincent de la chronique, un Vincent qui a participé à la fin 2023 à la campagne de financement participatif de la radio Cause Commune. Et Vincent nous a dit dans le parcourir qu'il avait envie de célébrer de vieux enregistrements tombés. Enfin, tombé, excusez-moi, j'ai fait l'erreur. Entrer dans le domaine public pour marquer l'intérêt, au-delà des licences libres justement célébrées toutes les semaines dans l'émission, l'intérêt du domaine public ou de ce qu'il en reste après les multiples extensions de la durée des droits. Donc un grand merci à Vincent, et Vincent a accompagné son choix musical du message « La liberté ne se donne pas, elle se prend ».
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Alors, nous allons continuer notre discussion donc sur les logiciels libres pour les journalistes d'investigation, toujours avec nos invités Caroline Desprat, directrice technique adjointe et développeuse logicielle au Consortium international des journalistes d'investigation, et Maxime Vanza Lutonda, développeur dans le sein du même consortium. Alors, juste avant la pause, on avait commencé un petit peu à parler de DataShare, donc la plateforme d'indexation et de partage sécurisé d'informations pour les journalistes du consortium d'investigation. Alors, d'ailleurs, il y a une démo, si vous voulez tester, vous allez sur dataShare.icij.org, il y a une démo qui est disponible, hein, il y a aussi le code source si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Hein. Alors, juste avant la pause musicale, je parlais de l'appropriation par les journalistes, parce que voilà, il y a des journalistes qui ont un besoin de partage d'informations, il y a des outils qui existent ou qui sont plus ou moins en développement. Vous, au sein du consortium, vous décidez de développer un outil. Comment ça s'est fait? Est-ce que ça s'est fait en cohérence, en discussion avec les journalistes? Comment s'est fait l'appropriation, le choix des interfaces d'usage, etc.? Qui veut expliquer un petit peu là-dessus?
Alors, historiquement, il y avait un besoin justement d'indexation parce que les logiciels qui existaient n'étaient pas assez puissants pour la quantité de données qui étaient reçues et ne traitaient pas forcément efficacement les informations. Donc c'est à ce moment-là qu'il a fallu décider de prendre en main les choses. Et du coup, un des aspects dans le développement qui a été très important, c'était de se dire, on veut pouvoir indexer un document comme 12 millions. C'est-à-dire que lors du développement logiciel, on va essayer d'être extrêmement scalable, ce qu'on dit en anglais, on va pouvoir passer à l'échelle et permettre d'avoir une grande modularité dans ce qu'on propose et de pouvoir aussi étendre les capacités du logiciel en fonction des besoins. Et chaque enquête amène son lot de besoins. Par exemple, on a des enquêtes comme Cyprus Confidential, qui est la dernière enquête qui est sortie, où il y avait beaucoup de documents.
Donc, qui concerne Chypre, c'est ça ?
Chypre. D'accord. Où il y a beaucoup de cabinets qui ont aidé les oligarques russes à cacher leur argent. En tout cas, c'est ce qu'ont révélé les documents, en partie. Et du coup, il a fallu traduire des documents grecs, ce qui n'était pas forcément un cas possible, prévu ouais, avant. Et du coup, on a mis en place une solution de traduction automatique à grande échelle pour ça, sur DataShare, qu'on peut associer à DataShare.
Alors, juste peut-être une question technique là-dessus. Est-ce que l'outil de traduction automatique, il utilise quoi, en fait? C'est quelque chose que vous avez développé ou c'est un logiciel externe?
Un peu les deux. Il a fallu l'adapter au fait qu'on l'utilise avec une grande base de données. Et c'est basé sur... Je vous fournirai les références après l'émission. Voilà. Mais c'est open source aussi.
D'accord. OK. Et est-ce que dans l'équipe... Alors, je suppose que dans l'équipe, donc, il y a des gens qui travaillent au niveau de l'interface d'utilisation pour que ce soit utilisable par les gens à qui c'est destiné. Parce que tout à l'heure, vous avez dit dans l'équipe, vous étiez 20 dans l'équipe tech, c'est ça?
Oui, tech et data.
D'accord. Et dans l'équipe technique et données, quoi.
Voilà. Et dans l'équipe technique, il y a une partie système et une partie développement.
D'accord.
Et dans la partie développement, on est 6. Et qui inclut également, du coup, Soline Le Désert, qui est notre designer UI/UX. Et elle, du coup...
Ah, UX.
UX, c'est expérience utilisateur. Et une partie de son travail qu'on fait aussi en équipe, ça va être de proposer une interface inclusive et accessible pour le plus grand nombre, parce qu'on ne sait pas exactement qui utilise nos journalistes, qui utilise notre outil, à part les journalistes qu'on côtoie un peu tous les jours. Mais du coup, il faut... que ce soit disponible sur des petits écrans, peut-être en plusieurs langues. Et
il y a des questions, je suppose, d'accessibilité aussi pour peut-être des personnes qui sont malvoyantes ou autres.
On essaye de faire des efforts là-dessus. Notamment, on est en train de faire un redesign de l'application pour qu'elle puisse proposer plus de fonctionnalités. Et donc, on va prendre ces aspects-là en considération. C'est une part importante du travail aussi de développeur et de développeuse.
Et est-ce que tout à l'heure je posais la question sur l'usage de DataShare par d'autres structures. Là, sur la partie, comme c'est un logiciel libre, donc le code est disponible, il est sur une forge, c'est-à-dire un site sur lequel on peut contribuer soit par des corrections, soit par des remontées de bugs. Est-ce que vous avez des contributions externes de gens qui ne font pas partie du consortium?
Oui, exactement. Ouais. Sur GitHub, la plateforme GitHub, on reçoit on a mis en place des formulaires de remontées de bugs et de propositions de fonctionnalités. Et en parallèle, on a une boîte support sur laquelle on reçoit des mails de personnes qui utilisent DataShare et qui ont des soucis et qui ont besoin d'aide. Et le profil de ces personnes sont variés. Ça peut être des universitaires, d'autres journalistes ou des gens tout seuls chez eux ou qui veulent monter avec leur équipe un petit logiciel d'indexation. Et ce qui fait que c'est utilisé, en fait, c'est qu'on propose DataShare en deux modes. Mmh. Un mode local, en fait, à utiliser sur sa machine en solitaire, et un mode serveur à déployer sur un serveur et sur lesquels les utilisateurs peuvent implémenter une authentification pour gérer plusieurs comptes, en fait, pour le travail collaboratif.
D'accord. Alors, DataShare, on l'a compris, est conçu pour gérer des milliers et des milliers de documents avec des centaines et des centaines de personnes. Mais est-ce que finalement, c'est utilisable aussi dans un cas plus simple, avec quelques dizaines de documents en individuel? C'est pas une usine à gaz
Non, totalement. C'est utilisable sur les documents personnels. Enfin,
d'accord. Et en termes de plateforme, système d'exploitation, c'est disponible sur quel système?
Sur tous les systèmes, en fait, justement, l'idée, c'est d'être accessible et simple à installer.
D'accord.
Donc, on va avoir un exécutable sur Windows, un package sur Mac, je suppose, oui, quelque chose comme ça. Et pareil, sur Ubuntu, on est sur le Snap Store.
Donc, parler tout à l'heure, G.
On a un point deb. Et puis après,
ça, c'est pour Debian. Ouais.
Voilà, on peut installer directement l'outil.
C'est un outil multiplateforme, ce qui est bien.
Exactement. Voilà, on veut que ce soit accessible au plus grand nombre de la manière la plus simple.
D'accord. Et est-ce que vous avez des je suppose que vous avez des retours, oui, mais oui. Quels sont les retours des journalistes, en fait, qui l'utilisent?
Plutôt positif.
Ils sont constructifs, en tout cas.
Et est-ce qu'il y a des demandes, par exemple, que vous êtes en train, des demandes de rajout, vous êtes en train de traiter, dont vous pourriez parler, ne serait-ce qu'une ou est-ce qu'aujourd'hui, fonctionnellement, quelque part, l'outil répond aux besoins, à part la montée à l'échelle dont on a parlé tout à l'heure, hein, c'est évident, c'est toujours à prendre en compte, mais est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui sont demandées ou des fonctionnalités que vous allez rajouter ou auxquelles vous pensez dans le futur?
Alors, ce qu'on veut, c'est que DataShare devienne le point de départ d'une enquête. On essaye en général d'être assez agnostique sur la forme que ça peut être. Pas forcément une enquête journalistique, mais aussi un travail de recherche, parce qu'on peut travailler par projet. Et donc, ce qu'on veut essayer de mettre en place, c'est de proposer aux gens de prendre leurs notes à l'intérieur du logiciel, ce qui n'est pas possible actuellement, et pour éviter de disséminer des informations sensibles en dehors d'un logiciel qui, pour le coup, est sécurisé. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a envie de vraiment travailler pour aider les journalistes à concentrer leurs notes au sein de leur enquête, par exemple.
D'accord. Et est-ce que dans ce cadre-là, justement, d'outils, d'éviter d'utiliser des outils multiples, vous penseriez à l'option d'ajouter une sorte de messagerie, de courriel, ou c'est hors de propos parce que ça serait inutile?
On a la rédaction en ligne, pour le coup, qui fait ce travail de communication entre les journalistes. Donc pour nous, en interne à l'ICIJ, ce n'est pas une nécessité. Et on n'a pas une nécessité de temps réel fort sur DataShare.
Et est-ce que l'outil, peut-être le fait déjà, là on parle des journalistes, si on se met du côté des lanceurs, des lanceuses d'alerte et des lanceurs d'alerte, qui ont peut-être, qui des fois veulent par exemple contacter des journalistes, leur mettre à disposition des documents, alors à la fois de manière sécurisée et vraiment totalement anonyme, c'est-à-dire sans vraiment savoir qui a envoyé. Bon, il y a des outils qui font ça déjà aujourd'hui, notamment il y a SecureDrop de la, je sais plus comment s'appelle cette fondation, mais ça va me revenir. Est-ce que DataShare le prévoit actuellement ou est-ce que c'est prévu?
Pour l'instant, on a juste un travail de recherche avec le PFL, c'est l'École Polytechnique, l'École Polytechnique de Lausanne.
De Lausanne, ok.
Avec laquelle on travaille sur quelque chose qui s'appelle DataShare Network et qui permettrait en fait à un utilisateur de faire des recherches sur un réseau décentralisé basé sur Tor. Donc en gros,
il faut que tu expliques ce que c'est.
Alors, Tor,
ça tombe bien, j'ai une question après.
C'est Onion Router. En fait, c'est un réseau décentralisé avec plusieurs machines et pour garantir une certaine anonymisation de l'utilisateur. Et en fait, sur ce travail avec le PFL, il y a un papier d'ailleurs, on pourra le mettre en lien. Un papier universitaire. Et en fait, le principe, c'est de pouvoir faire des requêtes sur un réseau et pouvoir chercher dans les documents des autres utilisateurs qui ont mis les documents à disposition et ensuite mettre ces deux utilisateurs en contact et pouvoir échanger.
D'accord.
Mais alors, c'est toujours dans les cartons.
D'accord. Alors je vais relayer la question que je vois sur le salon. Ouais, mais je vais la relayer juste après parce que tu viens de parler de Tor, donc j'avais préparé une question. En tout cas, on m'avait soumis une question. Donc Tor, c'est notamment un réseau qui permet de faire en sorte d'anonymiser au maximum les connexions, donc de permettre de ne pas être tracé. Et c'est associé aussi avec un navigateur web qui s'appelle le Tor Browser, qui est basé sur Firefox. Donc, est-ce que vous savez si les journalistes d'investigation utilisent ce fameux Tor Browser et si est-ce que ça leur cause des soucis pour accéder à certains sites? Parce que quelqu'un m'a dit, par exemple, si vous allez sur des sites, alors techniquement, je ne sais pas, qui ont du JavaScript, ça pourrait causer des problèmes entre... voilà, je sais pas.
Alors, sur Tor Browser, je ne sais pas du tout.
Ouais.
Mais sur DataShare Network, en fait, il y a une autre couche en fait avec un système de clés pour pouvoir communiquer de manière encore plus sécurisée.
D'accord. Ok.
Donc, c'est compté dans le cas d'utilisation, mais après, bon, c'est encore au stade de recherche.
D'accord. Alors, on vient de me donner la réponse pour SecureDrop, qui est développé sous l'égide de la Freedom of Press Foundation. Et il y avait, je remonte le salon web, parce qu'il y avait une question. Donc, alors, est-ce que le monde des journalistes est familier avec le monde du logiciel libre? Existe-t-il des paradigmes proches dans le milieu professionnel? À votre connaissance, bien sûr.
Alors, je pense que souvent, le logiciel libre est heureusement ou malheureusement associé au gratuit. Et pour ça, du coup, les logiciels libres sont parfois utilisés par les journalistes pour ces raisons-là, notamment aussi pour des raisons de transparence, comme on a pu le dire pour ceux qui sont les plus les utilisateurs les plus avancés. Après, à ma connaissance, je ne sais pas à quel point l'aspect libriste est implanté dans le journalisme. Par exemple, à l'ICIJ, des journalistes qu'on côtoie ne sont pas toujours très familiers avec les outils technologiques en général. Et du coup, on propose de la formation là-dessus. Par exemple, on essaye de les encourager, de les obliger à utiliser des clés GPG
C'est quoi une clé GPG?
C'est pour faire simple, c'est une manière de chiffrer un mail et de sécuriser une communication avec une personne qui a votre clé. Donc, si vous connaissez l'autre personne, vous pouvez déchiffrer son message.
Voilà, sachant qu'en fait, techniquement, les courriels, quand ils transitent sur les réseaux, ils transitent par défaut en clair. Donc, évidemment, si ça transite par différents réseaux, bah, les gens qui gèrent ces réseaux pourraient lire le contenu avec GPG. C'est un outil de chiffrement. Donc, le courriel, il part chiffré. Et techniquement, normalement, il ne peut être déchiffré que par la personne qui a votre clé. Ce qui assure effectivement une forte confidentialité des informations. Et donc là-dessus, vous faites de la formation sur le fait d'utiliser l'outil et comment l'utiliser.
C'est ça. L'idée, c'est pas de. On essaye de passer outre les détails techniques, on essaye de rendre ça simple. On ne va pas forcément expliquer le fait que ce soit open source, je ne sais pas combien de journalistes à la CIJ savent que DataShare est open source, par exemple. C'est pas mais l'effort, pour moi, l'effort important qui est fait sur la qualité logicielle et d'expérience utilisateur et utilisatrice leur permet de rentrer dans l'outil technique sans s'en rendre compte. Mais on n'aborde pas forcément les aspects open source avec les journalistes.
D'accord. Donc on a bien compris que l'un des outils phares, peut-être même l'outil phare d'ICIG, c'est DataShare. Est-ce que et que vous faites quand même à côté aussi la formation à d'autres outils libres en essayant de le rendre le plus transparent possible, le plus simple possible, parce que effectivement c'est pas forcément très très simple à comprendre du premier abord. Est-ce que vous avez d'autres outils que vous développez en interne, par exemple un dont vous aimeriez parler, mettre en avant, parce que c'est vrai que moi quand on m'a proposé, enfin quand je sais plus qui, je crois que c'est Anne d'ailleurs qui m'avait dit il faudrait que tu refasses une émission avec le consortium. Moi, le premier mot qui me venait à l'esprit, c'était DataShare. Mais je suppose que peut-être qu'il y en a d'autres que vous avez développés depuis.
Oui, Maxime. Alors on a développé un logiciel qui s'appelle Prophecies. C'est un outil en fait de fact-checking collaboratif.
Donc vérification de faits.
Vérification de faits de données brutes, on va dire. Donc le principe là, il est simple, hein, c'est de vérifier la cohérence d'un jeu de données et en distribuant les données à vérifier à une équipe et en fait le logiciel permet de paramétrer le nombre de vérifications que chaque personne doit faire, le nombre de enfin le quelles données à vérifier, etc. Et tout ça c'est fait de manière un peu pas ludique, mais avec un taux de complétion qui est affiché. Enfin, les gens, enfin les
qu'est-ce que t'appelles un taux de complétion ? Je suis pas sûr dans le
parce contexte. Qu'en fait, c'est organisé. En fait, le logiciel est organisé en tâches,
ouais.
En tâches à réaliser.
D'accord.
Donc, c'est des données à vérifier, par exemple, des adresses.
D'accord. Il y a un pourcentage de complétion
pour chaque utilisateur.
Non, mais c'est bien. Ouais.
Par exemple, on a des adresses à vérifier et on vérifie que telle adresse se trouve bien dans tel pays, on valide ou pas.
C'est un système de récompense qui encourage à continuer.
Un peu, voilà. Ouais, et puis, et du coup, c'est un peu mieux que d'avoir des fichiers Excel qui traînent avec tout le monde qui modifie le fichier en même temps et qui est des soucis après avec ça.
D'accord. Donc ça c'est un outil de vérification de faits. Donc
on a un jeu de données, on fait le vérifier par une équipe.
D'accord. Donc si je suppose qu'en fait vous développez des outils à la demande entre guillemets, voilà, par rapport aux besoins des journalistes.
C'était un besoin pour
une enquête. Pour une enquête précise, ouais. D'accord. Et pareil, c'est diffusé en logiciel libre,
c'est disponible sur GitHub.
D'accord. Et est-ce que il y a des outils que vous développez en interne que vous ne mettez pas en libre ? Je ne sais pas, hein, pour une raison ou pour une autre. Hein. Ou par défaut, c'est diffusé en libre ?
Par défaut, on diffuse en libre. Tout ce qui n'est pas diffusé est plus spécialisé sur la marque, le site web.
Ah oui, d'accord. Okay.
Voilà, mais tout ce qu'on pense qui n'est pas utile à la communauté. Et voilà. En général, tout ce qui est vraiment interne n'est pas diffusé est quand même basé sur du logiciel libre, le plus souvent. Je n'ai pas de contre-exemple. Mais voilà, on part du principe qu'on redonne aussi à la communauté.
D'accord. Là, on va changer un tout petit peu. Alors, le temps file vite. Hein, je vois. Tout à l'heure, tu as employé un moment le terme de source ouverte. Mm-hmm. D'enquête en source ouverte. Alors, peut-être expliquer ce que c'est qu'une enquête en source ouverte et peut-être prendre un exemple de ce que vous avez, de ce que le consortium a fait en source ouverte. Donc, déjà, c'est quoi une enquête en source ouverte ?
Donc, une enquête en source ouverte, ça va être une enquête où on va prendre des informations qui sont disponibles en général sur le web, donc qui sont ouvertes, donc accessibles. Accessibles, après, est-ce que ça veut dire qu'elles sont bien formatées ? Non. Et donc, l'exemple qu'on a, c'est une enquête qu'on a fait en 2023, qui s'appelle Deforestation Inc., qui est une enquête qui n'est pas basée sur un leak, mais qui est une fuite de données, mais qui est une proposition de l'ICIJ qui s'est rendu compte que les systèmes de certification concernant les systèmes de certification sur les productions en bois n'étaient pas toujours claires et transparentes. Et Ce qu'on fait, par exemple, ça va être l'étude, l'analyse d'images satellites qui sont parfois des sources ouvertes, donc pour voir si, est-ce qu'il y a une forêt qui a été coupée, qui n'aurait pas dû être coupée, est-ce qu'il y avait les autorisations à cette époque-là, ou alors aspirer aussi les informations de sites où il y a les certificats de manière systématique pour exposer un problème systémique. C'est-à-dire, on récupère tous les certificats, on va voir est-ce que ce critère est vérifiable, est-ce qu'il n'est pas vérifiable, et est-ce que cette personne qui a obtenu cette certification avait le droit d'obtenir cette certification. Et dans ce cas-là, on s'est basé sur des sources qui étaient disponibles un peu de manière... mais un peu mise à disposition de manière opaque pour différentes raisons, parfois.
Pour cacher une déforestation massive illégale, quoi, c'est ça ?
Qui peut parfois cacher justement des déforestations illégales ou des tampons qui arrivent en Europe, c'est vert, et en fait ça n'aurait jamais dû arriver jusqu'à chez nous.
Et donc là, c'est a priori le cabinet d'audit qui était en cause dans ce dossier là, c'est ça?
Justement, en fait, ce qui est intéressant dans les enquêtes qu'on fait, c'est que on a plusieurs problèmes locaux. Ça va être en Indonésie, ça va être au Canada, etc. Et on voit que c'est les mêmes méthodes qui sont parfois appliquées dans différents pays. Donc, et du coup, c'est pour ça qu'on s'intéresse. Ces enquêtes finissent par être publiées, parce qu'on ne publie pas tout, parce qu'elles ont à la fois, elles reposent sur un problème local, mais c'est un problème systémique qui va avoir un impact global si c'est publié par la ICIJ, peut-être qu'il y aura des retombées positives, positives, qui vont mettre en lumière certains problèmes systémiques liés à la déforestation, par exemple.
Parce que derrière, il y a des structures internationales qui finalement contournent les règles partout, en fait.
Tout à fait.
Voilà. Cabinet d'audit ou autre, hein. c'est pas que eux les qui, mais c'est surtout eux, souvent eux, mais enfin bon. D'accord, source ouverte. Alors, oui, le temps passe vite, hein, 16h. Et sur les et donc aujourd'hui vous êtes aussi reconnu par la base de données massive que vous avez finalement constituée de toutes ces violations, notamment sur l'évasion fiscale, qui est maintenue, qui est grossie. Est-ce qu'elle est étudiée d'ailleurs par des gens au-delà de l'aspect journaliste et autres, par des gens qui font de la recherche ou ça, etc. Enfin, historique.
Alors, vous faites référence à l'offshore database.
Ouais, oui.
Okay, c'est une base de données, oui, de sociétés offshore, et qui. Alors, on a fait un sondage il n'y a pas longtemps, et oui, c'est on a eu plus d'une centaine de réponses. En fait, il y avait plusieurs types de profils qui utilisent cette base de données. Donc là, on a fait ce sondage et on a essayé d'essayer de savoir quels sont les besoins en fait de ces personnes. Donc il y aura certainement des travaux en cours sur ça.
Ok. Anne. je pensais à Anne l'autre, qui est une ancienne de l'ICIJ. Caroline, excuse-moi.
Oui, ce qu'on a vu dans les profils, pour ajouter sur ce qu'a dit Maxime. C'est que donc c'est souvent des gens qui travaillent aux impôts qui vont regarder ces bases de données, des banques aussi qui vont regarder si leur client apparaît dans cette base de données. Ça peut être aussi pour de la recherche, d'autres journalistes. Et il y a plusieurs bases de données ouvertes, comme Offshore Leaks, qui permettent de recouper des informations justement pour avoir cette information dans la finance offshore qui est le bénéficiaire ultime et d'avoir accès à cette information de manière plus transparente. Et comme disait Maxime, justement, on va faire un gros effort pour cette année et faciliter l'usage de cette base de données, continuer de l'enrichir avec les informations des précédentes enquêtes, mises à jour régulièrement.
D'accord. Alors, dernier sujet, qui va être rapide, mais dans vos objectifs ou dans vos projets de l'équipe technique, est-ce que vous avez des priorités, alors qui ne sont pas forcément autour de l'évasion fiscale. Ça peut être l'empreinte carbone ou autre. Est-ce que vous avez voilà, des choses qui sont dans, dans votre feuille de route dans les mois, années à venir? Alors, qui?
Vas-y, Maxime.
Non, vas-y, Maxime, alors.
Oui, on a, ouais, on a des objectifs, en fait, oui, d'optimisation afin de réduire l'empreinte carbone. Plus d'interopérabilité.
C'est pas facile à dire. Hein. Celui-là, ouais.
Interopérabilité dans les formats des données. Rendre aussi.
Oui, parce qu'en fait, sur cette question, je suppose que vous recevez des données qui sont dans des tas de formats ouais. différents, qui ne sont pas forcément. Voilà. Interopérables, c'est-à-dire entre guillemets compatibles entre eux, forcément. Donc,
exactement, voilà. Et même certains fichiers qu'on ne peut pas.
Pas ouvrir.
Pas ouvrir, mais. Difficile. En fait, il y a une prévue dans DataShare, par exemple.
Ouais.
Et certains fichiers, on ne peut pas les voir, enfin voilà.
D'accord, donc, ok.
Et aussi rendre le logiciel en fait, plus ouvert. Là, on a un travail en fait, où on va inclure, par exemple, une partie en Python.
Alors, plus ouvert dans quel sens?
Ouvert de DataShare?
Oui.
Enfin, avec des extensions.
Ah,
des
ok,
extensions.
D'accord. D'accord. Donc pour faciliter l'ajout de fonctionnalités via des extensions qui seraient écrites. D'ailleurs, je n'ai même pas demandé, il est écrit en quel langage DataShare?
C'est en Java.
C'est en Java, d'accord.
C'est en Java.
D'accord. Donc là, le choix de Python, c'est quoi? C'est parce qu'il y a plus de gens qui font du Python que de Java ou
C'est pour faciliter l'analyse de données.
Ouais. D'accord.
Parce que les gens qui sont.
D'accord.
Les data analysts, les gens qui font de l'analyse de données sont souvent plus.
Python. Alors, Python, c'est un langage de programmation. J'en profite voilà. pour dire qu'en septembre ou octobre 2024, on fera un sujet sur les langages de programmation et notamment orienté Python. Avant les journées Python qui ont lieu, je crois, à Strasbourg cette année. D'accord. Donc, faciliter le rajout de fonctionnalités avec un langage qui est vraiment. Un langage de programmation qui est vraiment orienté à l'analyse de données, etc. Mm. OK. D'accord. D'autres projets ou perspectives? Mais ou des besoins peut-être? Est-ce que vous recrutez, tiens?
Pas que je sache.
Pas actuellement, d'accord. Okay. Non, non, d'accord.
Non, ce qui nous occupe beaucoup en ce moment, c'est justement ce redesign qui va permettre justement d'inclure plus de nouvelles fonctionnalités, faire de la place, rendre le logiciel plus accessible. Et faciliter, quand on parlait d'interopérabilité, c'est aussi, on fait plein de logiciels, maintenant il faut qu'ils puissent communiquer entre eux, et notre but c'est que justement DataShare devienne un peu le point de départ pour les enquêtes.
L'élément central d'entrée, c'est ça.
Voilà, et qu'ils puissent communiquer avec d'autres outils. DataShare c'est à la fois un moteur de recherche, mais aussi une interface sur laquelle on va pouvoir faire des requêtes, mais on a aussi un outil en ligne de commande, et on voudrait pouvoir faire communiquer les deux. On voudrait que, par exemple, les données qui sont dans DataShare puissent être fact-checkées, vérifiées avec Prophecies, qui est aussi notre outil de vérification. Donc tout ça, c'est quelque chose qui a un travail de fond et qui va nous occuper encore quelques années, je pense.
D'accord. Bon. Alors, on arrive à la fin de l'échange avant la question traditionnelle qui permet d'essayer d'extraire l'essentiel de l'échange. Donc pour conclure, quels sont les éléments clés à retenir selon vous, en tout cas de cette émission? Alors, en moins de 2 minutes, chacun et chacune. On va commencer par Maxime.
Oui. Alors, moi, j'aimerais insister sur l'importance d'outils comme DataShare parce que, en fait, de nos jours, les données sont de plus en plus nombreuses et complexes. Et à titre d'exemple, les Panama Papers, l'origine des données en fait vient d'un cabinet d'avocats panaméens qui a été créé dans les années 70. Et donc des années 70 à aujourd'hui, ça a représenté environ 12 millions de documents. Donc si on avait un scandale de cette envergure de nos jours, de la même durée, je pense que le nombre de données serait infiniment plus grand. Donc il faudrait que les outils qui assistent les journalistes comme DataShare suivent. Et je pense que c'est ça le plus important en fait, et qu'il faut travailler.
D'accord. Caroline?
Oui. Du coup, pour résumer, je pense qu'il est important de soutenir un journalisme indépendant. Par exemple, l'ICIJ fonctionne sous forme de dons, mais ça peut être aussi des contributions sur les logiciels open source aussi qu'on propose pour justement garder un pluralisme dans nos démocraties. Du, Du coup, ici aujourd'hui, on est venu parler de l'ICIJ et des logiciels open source qu'on propose. Donc si vous avez l'opportunité et l'envie de contribuer à DataShare, n'hésitez pas. Ou si vous avez des questions, on a aussi une boîte mail datashare@icij.org. Pardon. Et voilà, du coup...
Bah écoutez, c'est très bien et il faut voilà faire. Vous pouvez faire un don effectivement à ICIJ. Vous pouvez vous abonner à des sites de presse ou des journaux qui font des enquêtes d'investigation, comme par exemple Mediapart. Hein. Alors, à titre personnel, je suis un abonné ravi, enchanté du travail de Mediapart, mais c'est pas le seul évidemment. Bah écoutez, c'était super. Nous sommes. Je cherchais. Ah si, vous avez un félicitations sur le salon web, donc voilà. Et en tout cas, c'était vraiment très bien. Donc le site web, c'est icij.org. Voilà, donc vous y allez. Sur le site web de l'émission, donc sur libravou.org/203, vous avez toutes les références qu'on a citées et on rajoutera celles qui ont été citées en cours de route de l'émission, notamment les articles, etc. Comme ça, vous retrouverez toutes les informations donc sur libravou.org/203. Bah écoutez, c'était donc Caroline Desprat et Maxime Vanza Lutonda qui sont donc du Consortium international des journalistes d'investigation. Merci à vous et bonne fin de journée.
Merci Frédéric. Merci.
Nous allons faire une pause musicale. Alors, nous allons rester toujours dans un truc un peu tranquille, sympa et court. Nous allons écouter Django par Mr. Smith. On se retrouve dans 2 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Nous venons d'écouter Django par Mr. Smith, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, CC BY 3.0. Donc ce titre était un hommage à Django Reinhardt.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Nous allons passer au sujet suivant. Vincent Calame, informaticien, libriste et bénévole à l'April, nous propose des chroniques et lectures buissonnières, ou comment parler du libre par des chemins détournés en partageant les lectures d'ouvrages divers et variés. Le chapitre d'aujourd'hui est intitulé « Un journalisme ironique ». Bonjour Vincent.
Bonjour Frédéric. Oui, et surtout merci à Caroline et Maxime d'avoir dévoilé les coulisses du consortium. Parce que, comme vous allez l'entendre, je partais de loin dans ma vision mythique du journalisme. Alors, je suis pas le seul parce que samedi dernier, au moment de l'AG de l'April, on avait une petite discussion informelle à propos de Libre à vous. Et quand Frédéric nous a rappelé le sujet d'aujourd'hui, le logiciel libre pour un journaliste d'investigation, j'ai senti dans la réaction de ma voisine un petit effet waouh. Journaliste d'investigation, tout de même, ce n'est pas rien. Ça m'a fait plaisir parce que ça a été exactement ma réaction quand Frédéric m'avait indiqué par courriel que j'allais intervenir après un tel sujet long. Et oui, logiciel libre pour le journaliste d'investigation, ça fait pas le même effet que logiciel libre pour les systèmes de transport ou logiciel libre pour le traitement des données. Cela ne convoque pas le même imaginaire, ce ne sont pas les mêmes références. Et en ce qui me concerne, la référence qui m'est venue tout de suite à l'esprit est une lecture de jeunesse. Une historiette tirée du recueil de Trucs en vrac de Gottlieb, scénarisé par Ubuck, et intitulée « Memento du dessinateur de bande ». Alors, je rappelle que Gottlieb est un pilier de l'histoire de la bande dessinée française et fut très prolifique dans les années 70 et 80. On peut trouver son humour daté, mais son coup de crayon est toujours aussi époustouflant et il a une influence majeure sur de nombreux dessinateurs. Alors, pour en revenir à notre historiette de Trucs en vrac, elle se moque des stéréotypes de la bande dessinée de l'époque, ils sont nombreux, où le héros, je cite, est toujours grand, visage buriné par les vents du large, regard calme et rempli d'horizons lointains, mâchoire carrée et extrêmement volontaire. Bien sûr, son activité doit être en adéquation. Autrement dit, il doit obligatoirement être chevalier, corsaire, cow-boy, aviateur, pilote de course ou journaliste. Et oui, dans la culture populaire, le journaliste, c'est le cow-boy solitaire moderne. Bon, je me suis dit qu'il fallait que j'actualise un peu mes références sur les journalistes pour ne pas passer pour un vieux radoteur, voire pire, un boomer. C'est pourquoi j'ai emprunté en bibliothèque, plus précisément à la bibliothèque de Paris François Sagan près de Gare de l'Est, précise, le documentaire « Depuis Mediapart » de Naruna Kaplan de Macedo. Ce documentaire date de 2018 et nous fait revivre la campagne présidentielle de 2017 à travers la rédaction de Mediapart, comme son nom l'indique. Donc là, on est loin des stéréotypes de la bande dessinée des années 70, mais tout de même, ça a de la gueule d'être au cœur de l'actualité. Le mythe et l'adrénaline sont toujours là, avec heureusement une rédaction beaucoup plus féminisée. Rappelons notamment que Mediapart a eu un rôle important dans le dévoilement de l'affaire Fillon, qui a conduit à sa mise en examen en pleine campagne de la présidentielle 2017. Alors j'aimerais continuer à parler de ce documentaire qui en dit long sur la fabrique du journaliste, mais je crois que l'heure est venue de poser la question rituelle.
Quel est le rapport avec le libre ?
Oui. Alors, l'April vient de sortir un nouvel autocollant intitulé « Logiciel libre, société libre », qui est d'ailleurs sur ton ordinateur, Frédéric. Et j'ai lu récemment dans un article du Monde qu'au moment de l'accession au pouvoir de Xi Jinping, un document interne au Parti communiste désignait les sept périls de l'Occident, notamment l'indépendance de la justice, la société civile et le journalisme d'investigation. Venu d'un autocrate comme Xi Jinping, on peut dire que c'est un vrai complément adressé aux journalistes. Comme toute association militante, l'April fait partie de cette société civile, également vilipendée par Xi Jinping. On ne peut donc que se réjouir que des logiciels libres servent aux journalistes d'investigation. Il y a dans l'air du temps une défiance, voire une hostilité ouverte à l'encontre des médias et des journalistes. Peut-être suis-je toujours sous l'influence de mes lectures de jeunesse de Gottlieb, mais cette hostilité m'inquiète profondément, car je pense que le journaliste d'investigation est un pilier de la démocratie, et visiblement Xi Jinping pense comme moi, même s'il n'en tire pas, hélas, les mêmes conclusions. Alors, pour revenir à Gottlieb, et terminer dessus, que dirait-il avec son scénariste Ubuck s'il nous redessinait un memento pour dessinateur de bande aujourd'hui ? Je doute qu'on verra encore dans les métiers typiques d'un héros ou d'une héroïne, pilote de course ou aviateur, sobriété énergétique oblige. Cowboy, pirate ou chevalier sont également passés de mode, mais journaliste, ça c'est un métier qui resterait. Dans un des meilleurs passages de cette historiette de Trucs en vrac, Gottlieb et Ubuck évoquent l'indispensable compagnon du héros. Je cite « Au temps héroïque de l'aviation, le héros pilote l'avait à ses côtés en tant que mécanicien fidèle, généralement appelé la burette ou la goupille. » Dans un truc en vrac d'aujourd'hui, je suis sûr que le compagnon du héros journaliste ne serait plus le mécanicien fidèle, mais l'informaticien loyal. Au lieu de la burette ou la goupille, il s'appellerait AZERTY ou QR code. Notez, hein, si vous avez un projet de BD. Mieux, ce serait une jeune aqueuse au style un peu gothique qui s'appellerait, tiens, Lisbeth, comme dans la saga suédoise Millennium, dont le personnage principal masculin est, je vous le donne en mille, journaliste. Voilà, journaliste et aqueuse, voilà un couple de personnages qui a un bel avenir devant soi dans la culture populaire. Et finalement, c'est mérité, non ?
Ben c'est mérité, oui. Écoute, merci Vincent pour cette chronique très inspirée. Et comme on le dit sur le salon web, en parlant de Gottlieb, Gottlieb est aussi connu par un autre personnage, Super Dupont. Et je lis ce qui est marqué sur le salon web. Super Dupont est sans doute une caricature particulièrement d'actualité dans une période de résurgence réactionnaire sur l'identité française. Voilà, effectivement, on serait tous curieux de savoir ce que feraient Gottlieb et Super Dupont aujourd'hui avec l'actualité. Merci Vincent. Donc c'était la chronique Les lectures buissonnières, donc un journalisme héroïque, et donc Vincent qui dans ses chroniques s'adapte à chaque fois maintenant au sujet principal. Voilà, c'est toujours
j'ai toujours les libertés associatives en attente.
T'as toujours les libertés associatives en attente dans tes lectures buissonnières, effectivement, parce que ça c'est des vieilles lectures buissonnières. Et en fait Vincent est un grand lecteur, parce que même dans les assemblées générales il lit. C'est une excellente d'ailleurs lecture. Tu lisais partie dans l'assemblée générale de l'April, Les décodeuses du numérique. J'encourage vraiment la lecture. C'est un portrait de, je crois, de 12 femmes scientifiques, donc pas simplement informaticiennes, mais aussi chercheuses en biologie, etc., aux éditions du CNRS. Et je crois que c'est toujours disponible au prix de 6 euros, donc Les décodeuses du numérique. Bah écoute, merci Vincent. Au mois prochain.
Au mois prochain.
Alors, notre émission va se terminer. On va finir par quelques annonces. Le Libre en Fête se poursuit, et effectivement, le printemps arrive, le printemps ça veut dire le Libre en Fête, donc des événements de découverte du logiciel libre en France. Donc actuellement c'est 75 événements qui sont déjà référencés sur le site de Libre en Fête, donc libre-en-fête.net, donc il y a forcément un événement pas très loin de chez vous. Dans le cadre de la 4e édition des Journées des Libertés Numériques, les panneaux de l'Expo Libre de l'April sont affichés du 11 au 29 mars à la bibliothèque universitaire d'Inspé de d'Angers, donc qui organise également des Journées des Libertés Numériques pendant tout ce mois de mars. On parlait tout à l'heure du libre éducatif. Et bien le 29 mars à Créteil, il y a les Journées du Libre Éducatif, la Journée du Libre Éducatif plutôt, et avec notamment, et là je sais que vous allez être nombreux et nombreux à vouloir venir assister en direct, une chronique de Laurent et Laurette Costi qui font une fois par mois une chronique pour l'April. Alors il faut préciser qu'il faut être membre du système éducatif français pour assister à ces journées, mais en tout cas voilà, si vous l'êtes, n'hésitez pas, c'est à Créteil le 29 mars 2024. QGIS, système d'information géographique libre, réunit ses utilisateurs et utilisatrices les 27 et 28 mars 2024 à Grenoble. Si vous voulez en savoir plus sur QGIS, vous pouvez écouter l'émission Libre à vous numéro 97, donc libreavous.org/97. La radio Cause Commune propose chaque vendredi un rendez-vous convivial. Chaque premier vendredi, je vais y arriver. Chaque premier, en plus c'est quand même écrit, donc normalement je devrais juste lire ce qui est marqué. Donc je vais lire ce qui est marqué. Cause Commune vous propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h dans ses locaux à Paris au 22 rue Bernard Dimet dans le 18e arrondissement. Une réunion d'équipe ouverte au public avec un apéro participatif à la clé, occasion de découvrir le studio et de rencontrer les personnes qui animent les émissions. La prochaine soirée rencontre aura lieu donc le 5 avril, vendredi 5 avril 2024. Et normalement, je serai présent pour l'apéro et il est possible que ma collègue Isabelle Avani soit également présente. Et il est même possible qu'à partir de 20h, on fasse une émission spéciale avec les autres émissions qui parlent d'informatique sur Cause Commune. Donc notamment Parlez-moi d'IA, donc d'intelligence artificielle, et Cyberculture. Donc normalement, on fera peut-être une émission spéciale pour parler un petit peu d'informatique autour de Cause Commune. Et je vous invite à visiter le site de l'Agenda du Libre, agendadulibre.org, pour trouver des événements en lien avec les logiciels ou la culture libre près de chez vous. Notre émission donc se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Jim, Caroline Despra, Maxime Vanza Lutonda, Vincent Calame. Aux manettes de la régie, elle était de retour, Élise. Et voilà, merci Élise. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel Girondon, Langue 1, Julien Haussmann, bénévole à l'April. Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également à Quentin Gibaud, bénévole à l'April, qui découpe les podcasts complets des émissions en podcasts individuels par sujet. Vous trouverez sur le site web libreavous.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Si vous préférez nous parler, vous pouvez aussi nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou nous poser une question. Le numéro du répondeur, 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission du jour. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 26 mars 2023 à 15h30. Mon collègue Étienne Venu animera cette émission et il vous convie à une nouvelle édition au Café Liban. Un débat autour de l'actualité du logiciel Liban, donc avec Bouquinette, Florence Chabanois et Pierre Bessac. Nous vous souhaitons de passer de belles fins de journée. On se retrouve en direct mardi 26 mars 2024 et d'ici là, portez-vous bien.